Les podcasts de l'Institut de France. En habit vert, rencontre avec un académicien.
Rentrer dans l'univers d'Antoine Triller, c'est découvrir un monde un peu hors du temps. Dans son bureau de secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences, il n'a conservé que des objets choisis. Des gravures en noir et blanc et d'autres traces qui dénotent un goût profond pour le beau. Bref, un univers d'esthète qui voisine avec celui des synapses et des neurones. Le parcours scientifique d'Antoine Triller n'a rien d'ordinaire. Élève à la scolarité chaotique, médecin brillant en devenir, il a choisi la voie de la recherche. Et depuis, le neurobiologiste travaille à comprendre l'infime mécanique de nos synapses, ces minuscules points de jonction où le système nerveux se raconte. Alors, entre la beauté qu'il collectionne et la beauté qu'il traque dans le vivant, il trace sa propre voie, ne rien faire comme tout le monde. Il se dit peu communicant, mais il s'est rendu pour nous disponible au jeu du portrait, nous laissant approcher l'espace d'un moment, son monde intérieur. Antoine Triller est le 12e invité dans l'habit vert. On m'a donné rendez-vous.
Antoine, voilà.
Monsieur Triller, bonjour.
Bonjour, rentrez.
Vous allez bien?
Vous, ouais.
Préférez vous installer de ce côté-là ou celui-ci?
Là.
Ouais, ok.
Ah oui? Vous me voyez aussi grand que ça?
Ils sont réglables. Voilà. Eh bien, c'est parti.
Parlez sans haine et sans crainte.
Monsieur secrétaire perpétuel, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans votre bureau à l'Académie des sciences. Nous, on aime bien débuter l'émission dans l'habit vert en commentant ce qu'il se trouve autour de nous. Vous, dans votre bureau de l'Académie des sciences, on ne pourrait pas deviner qu'un neurobiologiste travaille ici. Comment vous l'avez décoré, ce bureau ?
Alors, j'ai commencé par enlever tout ce qu'il y avait avant.
Qu'est-ce qu'il y avait
avant ? C'est-à-dire ce qu'il y a normalement dans un bureau de secrétaire perpétuel, quelques livres anciens pour montrer qu'on était un savant. Donc j'ai tout enlevé, j'ai mis dans les placards. Et finalement, j'ai décidé de ne mettre que des choses à moi qui étaient en rapport, en quelque sorte, indirect avec ma biographie, puisque je m'offre parfois des cadeaux pour me récompenser d'avoir eu une promotion ou d'avoir fait quelque chose de bien. Donc je prends le devant et je me récompense moi-même.
Il y a de belles gravures, tout est en noir et blanc.
Oui, c'est un choix tout à fait conscient. J'aime la photo en noir et blanc, argentique, à l'ancienne. Je trouve la couleur un peu vulgaire.
Ah oui.
Au fond. Alors, je devrais pas dire ça parce qu'il y a beaucoup de photographes contemporains qui font des choses magnifiques en couleur, mais comme j'étais pas de talent, au moins, en faisant du noir et blanc, je reste dans quelque chose d'à peu près acceptable.
Il y a une belle gravure là, juste à droite de votre bureau. Qu'est-ce qu'elle représente?
Alors, elle représente Central Park. C'est la neige qui tombe sur Central Park et c'est vu de derrière deux grands hôtels de New York, dont l'hôtel Le Pierre, qui est un hôtel mythique de New York, c'est celui qui est à droite. Et donc, vous voyez la neige qui tombe. C'est une belle gravure d'un peintre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sécheret.
Alors, Antoine Triller, vous êtes l'un des deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. C'est une particularité de cette académie, comparée aux quatre autres qu'on peut trouver à l'Institut. Pourquoi l'Académie des sciences a besoin de deux secrétaires perpétuels?
En fait, c'est très ancien. C'est très ancien qu'il y ait deux secrétaires perpétuels parce que les champs de la science sont extrêmement vastes. Alors, ils ont tendance à se combler maintenant, mais ils sont très vastes et d'un côté, il y a un secrétaire perpétuel qui s'occupe plus, je dirais, des mathématiques. Le deuxième est un mathématicien.
Étienne Gis
s'occupe plus de la partie physique, informatique, mécanique, sciences de la Terre et de l'univers. Et la biologie, c'est un autre monde.
Il y a beaucoup de disciplines qui sont représentées au sein de cette Académie des sciences. Il y a 305 membres au sein de cette Académie des sciences,
alors,
c'est bien ça?
Il y a beaucoup de membres, effectivement. Alors, d'abord, on a un âge de référence. Oui. Qui est 75 ans.
C'est-à-dire qu'à partir de 75 ans...
On continue exactement comme avant.
Ouais.
Il y a juste un vote auquel on n'a plus le droit de participer.
D'accord.
Voilà. Mais... si on compare aux autres grandes académies en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, en mettant les choses proportionnelles, nous sommes une académie petite.
Ah oui ?
Tous les champs ne sont pas représentés. Donc, comparativement, mutas mutandis, nous sommes plus petits que ce que nous devrions, et donc nous essayons de grandir un peu maintenant.
En tout cas, au sein de l'Institut de France, l'Académie des sciences est de loin l'académie qui regroupe le plus d'académiciens. En tant que neurobiologiste, Antoine Trillor, vous incarnez la facette science du vivant qu'on peut compter ici à l'Académie des sciences. Mais avant de devenir neurobiologiste, vous avez d'abord une formation en médecine, avec un doctorat en médecine obtenu en 78. Pourquoi ne pas avoir choisi d'exercer de la médecine clinique par la suite? Pourquoi ne pas devenir médecin, en fait?
Alors, je vais vous expliquer. C'est extrêmement simple. D'abord, pourquoi ai-je décidé de faire des études de médecine? Parce que mon père m'a dit, parce que nous sommes d'une famille qui a migré. Mes grands-parents sont arrivés en France, pauvrissimes. J'en ai même un qui a, mon arrière-grand-père, qui vendait à la sauvette dans la rue. Mais mon père m'a dit, écoute, t'es pas doué pour la musique, donc fais médecine, au moins t'auras un diplôme. Si on doit encore partir ou bouger, eh bien tu pourras emmener ton diplôme avec toi. Voilà, donc moi, garçon obéissant, j'ai fait des études de médecine sans difficulté. Et en même temps, j'ai fait ce qui m'intéressait plus, qui était des études de sciences. Donc j'ai fait les deux en même temps. Et pendant que je faisais mes études de médecine, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était en relation avec la physiologie. C'est-à-dire le fonctionnement du système, le fonctionnement du corps humain.
D'accord.
La médecine elle-même, à l'époque, ne m'intéressait pas beaucoup. Et puis, les mêmes raisons qui ont fait que je n'ai pas aimé à cette époque-là, sont les mêmes raisons qui feraient qu'aujourd'hui, j'aurais aimé ça.
Ah oui.
Voilà. Donc, on change dans la vie. Le variable est l'humain. Le corps dégradé était quelque chose qui me répulsait un peu. Voilà. Et aujourd'hui, depuis quelques temps quand même, j'ai changé par rapport à ça. Je dois dire que les études de médecine m'ont quand même ouvert un domaine très particulier, qui est le domaine de l'intérêt vers ce qu'on pourrait appeler la complexité. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Cette question de la complexité, qui est liée à la variabilité des individus, est une question qui, dans le champ des pathologies, se pose de manière assez aiguë. Et au fond, ma formation médicale m'a permis, sur des choses extraordinairement fondamentales, éventuellement de les rattacher aux pathologies, à l'humain ou au vivant.
Mais aujourd'hui, vous vous dites que vous auriez fait un bon médecin, un bon neurologue, par exemple, j'en sais rien.
Pourquoi pas? En tout cas, j'ai une certaine forme de psychologie médicale dans la mesure où j'appréhende assez facilement, peut-être abusivement, ce que les gens pensent, où est-ce qu'ils en sont dans leur relation avec moi.
Beaucoup d'empathie.
Voilà.
Vous avez dit à l'instant que votre famille avait migré. Elle venait d'où?
J'ai une famille avec une histoire très compliquée. Enfin, pour résumer, c'est des gens qui sont arrivés en France avant la guerre de 14, qui venaient pour... mes deux grands-pères venaient de Roumanie et mes grands-mères venaient de Pologne ou de Roumanie. Ils sont arrivés, un de mes arrière-grands-pères était venu pour faire en France des études de médecine. C'est un personnage de roman, puisqu'un roman a été écrit sur lui.
Ah oui?
Et pour gagner sa vie, il allait sur les terrasses de bistrot, et il récitait des poèmes en français, en roumain, en italien, en russe. Il était très polyglotte. Mon autre grand-père est arrivé avec son bac. Il a fait des études de médecine. Lui a été un vrai médecin, un médecin de quartier. Je suis une troisième génération. Enfin, je ne sais pas si le premier qui arrive, on le compte zéro, oui, et le suivant un, ou si on le compte un, et voilà.
Quelle histoire! Vous n'avez pas poursuivi dans la voie de la médecine. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la recherche? Est-ce une personne en particulier?
Alors oui.
Intuition?
Non, non. Moi, d'abord, j'étais un garçon solitaire.
Oui.
Très solitaire, avec une certaine forme d'orgueil dans cette solitude, qui était... moi, je vais comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Mmh. Je ne suis pas un communicant, je ne suis pas quelqu'un qui aime raconter la science qu'il fait. Je suis heureux de comprendre quelque chose que d'autres ne comprennent pas. Voilà. J'ai toujours été comme ça. J'ai démonté beaucoup de réveils, beaucoup de montres. J'ai essayé d'en remonter quelques-uns. J'ai assez peu réussi, je dois vous dire. Puisque moi, il y avait un mystère dans les montres. Quand vous remontez une montre, vous exercez une force, vous faites une force, et cette force qui va s'accumuler comme une énergie potentielle va devenir une mesure de temps quand ça va s'écouler, quand ça va perdre de l'énergie. Pour moi, ce truc était un mystère, cette relation qu'il y avait entre l'énergie et le temps. Et puis, il y avait un ami de mon père qui était un des directeurs techniques du Gaz de France. Mmh. Et il organisait des promenades géologiques. On allait dans les carrières, chercher des cérithiums, des huîtres fossiles, des dents de requins, enfin voilà.
C'était où ?
Ah, c'était dans la région parisienne.
C'était
on est allé jusqu'à Auxerre, parce qu'à Auxerre, il y a des schistes très intéressants pour trouver dedans des traces de squelettes de poissons. Voilà, donc
incroyable.
C'était... Voilà, ça c'était, je dirais, le tout début. Je crois que ça a été absolument fondateur pour moi. Il faut vous dire que j'ai eu une scolarité très très chaotique.
Ah oui ?
J'avais tout pour devenir un mauvais élève.
Mais pourtant, vous avez fini votre lycée à Henri IV, non ?
Oui, mais là, je vais vous raconter comment je suis arrivé à Henri IV, parce
que
c'est quand même pas... D'abord, j'étais un élève, je dirais, secret, mais insolent. Mmh. Mais pas insolent en le faisant exprès, c'est parce que je ne pouvais pas résister au plaisir d'un bon mot. Mmh. Et donc, je trouvais ça intelligent, quoi. J'avais fait un bon mot, j'avais fait preuve d'intelligence, mais ce n'était pas du tout la vie des profs. Donc ça s'est assez mal passé, donc j'ai fait 2 septièmes.
Alors la septième, ça correspond à...
La septième, c'est juste avant de rentrer au collège.
Le CM2 aujourd'hui.
CM2, voilà, j'ai fait 2 fois le CM2, j'ai redoublé.
Oui.
Puis en quatrième, j'étais un petit adolescent, et alors là, j'ai eu des différends importants avec certains profs, et donc j'ai redoublé.
Oui.
Et puis à la fin de mon redoublement, j'ai été viré dans le technique. Alors là, le technique, c'était BTS.
Oui, c'est une autre voie.
Mais c'était vraiment humiliant pour moi. Enfin, c'était vraiment... ma mère était désespérée. Enfin, c'était vraiment... j'étais viré du lycée, quoi. Hein. J'ai fait quelques bêtises, quand même, voilà. Et puis, j'étais vexé comme un pou. Et pendant les vacances, j'ai travaillé comme une bête. Ma mère m'a fait travailler. Et à l'époque, on pouvait préparer les examens d'entrée au lycée. Comme externe, comme
D'accord.
extérieur. C'est des héritages de l'organisation de l'éducation nationale qui date d'après-guerre.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai préparé l'examen d'entrée dans le lycée qui me semblait le plus chic, c'est-à-dire en Henri IV.
À Paris.
À Paris. Et donc, j'ai été reçu. Donc, je n'ai jamais fait de classe de 3e de ma vie parce que je suis rentré directement de 4e en seconde.
C'est dingue comme histoire.
Voilà. Donc, le mauvais élève que je suis, au fond... était dans un système qui était totalement inadapté.
Et quand vous êtes rentré à Henri IV, vous avez changé ? Vous êtes devenu...
Non,
la scolarité a été moins
chaotique. J'ai continué à être comme j'étais. Et puis j'ai eu la chance, il y a eu mai 68 quand même. Ça a été quand même un beau moment. Moi, j'étais devenu pas un très bon élève, mais enfin un bon élève. Voilà. Et puis après ça, j'ai fait des études de médecine.
Et de biologie ?
Et donc, de biologie, voilà.
Vous vous êtes spécialisé sur les synapses ?
Alors, pas tout de suite sur les synapses,
ouais.
Mais j'ai d'abord travaillé avec un type qui est devenu d'ailleurs membre de l'Académie des sciences après, qui s'appelle Henri Korne. Et j'ai commencé à travailler sur un phénomène extrêmement intéressant qui permettait d'aborder des questions très fondamentales. C'était le réflexe d'échappement du poisson.
Alors qu'est-ce que
c'est ? Alors qu'est-ce que c'est quand vous l'avez tous fait quand vous êtes enfant, quand il y a un poisson dans un aquarium, vous donnez un petit coup sur l'aquarium, et le poisson donne un coup de queue pour s'échapper.
Mmh.
Et donc, ce phénomène est un phénomène qui est commandé par un neurone particulier, par un seul neurone, une paire de neurones, et donc j'ai travaillé sur les réseaux qui fait que le poisson échappe au danger. Donc c'était déjà quelque chose qui liait un comportement à un fonctionnement neurologique, mais très précis. Précis, mais probabiliste.
Mmh.
Et donc, quand un poisson s'échappe, c'est pour échapper à un prédateur. Mais s'il avait toujours la même réaction, le prédateur finirait par apprendre, ou en tout cas par être sélectionné. Et donc, ça ne marcherait plus. Il y aurait une des espèces qui disparaîtrait, et le prédateur pourrait plus se nourrir. Donc, je résume là, hein, évidemment. Donc, ce système était un système probabiliste d'échappement. De temps en temps, ça marchait, de temps en temps, ça ne marchait pas. Et donc, cette probabilité, en réalité, résultait de phénomènes eux-mêmes probabilistes dans les fonctionnements du système nerveux. Et donc, progressivement, je me suis intéressé à la communication entre les cellules nerveuses. Donc, ça, c'était la première phase. Donc, ça a été une phase, je dirais, extrêmement réductionniste, parce que je suis un réductionniste dans l'âme,
oui.
C'est-à-dire que je cherche à comprendre les mécanismes en allant aussi au fond que possible dans la structure qui sous-tend le comportement émergent global.
Dans l'infiniment petit.
Ah, c'est pas nécessairement l'infiniment petit, c'est le mécanisme élémentaire.
D'accord. Mais les synapses, ce sont des toutes petites zones de communication entre les neurones.
Oui, les synapses, ça fait à peu près une synapse, ça fait à peu près un demi-micron de diamètre. C'est-à-dire, un micron, c'est un millième de millimètre.
C'est une mesure invisible à voir au microscope.
Ça, il faut regarder ça au microscope.
Ah, on peut le regarder, on peut le voir au
microscope. Au microscope, on peut le voir. Et après ça, j'ai travaillé sur des récepteurs uniques. Donc ça, c'est une deuxième phase. Ça m'a pris... Attendez, chaque phase, ça m'a pris 10 ans. Hein.
Ah oui.
Voilà. Donc, c'est pas venu comme ça.
Quand est-ce qu'on a pu visualiser pour la première fois une synapse
c'est l'avènement de la microscopie électronique, je dirais, dans les débuts des années 60. Mm-hmm. On les a vus assez mal, d'ailleurs. C'était les premiers microscopes qui ne marchaient pas très bien. Et puis, on les a vus de mieux en mieux, si je puis dire, dans les années 70. Il y a eu des grandes avancées en microscopie électronique. Et là... il y a tout un champ qui s'est développé d'essayer de comprendre comment était faite la connexion entre les cellules nerveuses. Et on a essayé de rattacher ça aux connexions entre les grandes aires ou entre les grandes régions du cerveau. Ça s'appelle la connectomique, qui est née et qui continue d'ailleurs à se développer maintenant, je dirais, dans les années 70. Et puis, s'est développé un autre axe, qui est la voie que moi j'ai suivie, puisque je suis, comme je vous l'ai dit, plutôt réductionniste, donc j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait dans la synapse, comment c'était au niveau microscopique. Et donc j'ai fait de la microscopie électronique, et là, j'ai mis en évidence les premiers récepteurs dans le système nerveux central. C'est les premiers récepteurs qui ont jamais été vus au microscope électronique en utilisant des techniques qui étaient presque nouvelles à l'époque, utilisant des anticorps monoclonaux dont j'avais développé certains. Avec ça, j'ai développé des techniques de microscopie électronique qui ont permis de voir les récepteurs. Et une fois que j'ai vu les récepteurs, se posait une question. Comment les récepteurs arrivent aux synapses? C'est les protéines qui sont fabriquées à l'intérieur de la cellule, ils arrivent aux synapses, et comment y restent-ils ? Là, ça pose une question très difficile, parce qu'un neurone, ça peut recevoir une dizaine de milliers de synapses. Donc, la question est de savoir comment un récepteur qui est fabriqué dans le corps cellulaire sait où il doit arriver et comment y arriver. Est-ce qu'il y a un code ? Est-ce qu'il a une étiquette qui lui dit « il faut aller sur la synapse numéro 14327 » ou bien est-ce que ça se fait un peu au hasard et après ça, c'est sélectionné ? Donc, tout ça est dans un contexte que je ne vais pas vous développer maintenant, mais qui est très difficile. Mais j'avais fait des expériences préliminaires qui montraient que les récepteurs devaient être insérés un peu au hasard et diffusés dans la membrane, pour être stabilisé dans un endroit particulier. Il faut imaginer la membrane comme un plan, et dans ce plan, les récepteurs flottent, ils diffusent, comme des bouchons à la surface de l'eau, ils se cognent les uns les autres.
Donc ils sont mobiles, ces récepteurs, en quelque sorte.
Ils bougent, c'est un mouvement de type brownien. Ils bougent sur la membrane, et puis il y a des endroits où ils sont stabilisés. Mes expériences préliminaires étaient très, très indirectes pour démontrer ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer un physicien. Je suis dans mon bureau un samedi matin et je reçois un coup de fil d'un de mes amis physiciens qui me dit « Écoute, il y a un jeune garçon qui revient de son stage postdoctoral aux États-Unis. Il aimerait travailler sur les neurosciences. » Je lui dis, j'étais dans mon bureau, je lui dis « Bah écoute, je suis dans mon bureau, puisqu'il est dans le tien, tu lui dis qu'il vient de me voir. Il a juste à traverser la rue d'Ulm. » Moi, j'étais rue d'Ulm à l'école normale à l'époque. Et donc, il arrive dans mon bureau, et je commence à discuter avec lui, et je m'aperçois qu'il vient du laboratoire où avait été mis au point quelque chose qui s'appelle les boîtes quantiques. Et il se trouve que j'avais sur mon bureau cet article qui était un article qui était sorti un mois auparavant où je m'étais dit, mais ça, voilà un outil dont j'ai besoin, mais comment vais-je pouvoir l'utiliser? Et donc, je regardais cet article et tout d'un coup, je réalise que ce garçon vient du laboratoire, il n'était pas signataire de l'article, mais vient du laboratoire où avait été écrit cet article. Et donc, on a commencé une collaboration qui a été très fructueuse, qui a été l'utilisation de boîtes quantiques comme marqueurs moléculaires. Et donc, on a pu marquer directement les récepteurs avec ces boîtes quantiques, qui ont des propriétés optiques très spécifique. Et on pouvait suivre les molécules une par une. Et donc, en suivant les molécules une par une, on a pu les voir diffuser dans les membranes et se stabiliser grâce à des protéines que nous avions identifiées par ailleurs dans les zones synaptiques. Et donc, on a pu, à la suite de ça, faire des travaux de thermodynamique statistique pour calculer les énergies qui étaient nécessaires pour stabiliser les récepteurs.
Ce sont donc des petites zones, mais à grande mission, parce que les synapses permettent pas moins que la transmission des informations dans le système nerveux, l'apprentissage, la mémoire. En fait, sans synapses, le cerveau ne peut rien percevoir, rien contrôler.
Sans synapses, il n'y a pas de cerveau.
Voilà. Oui.
Bon, voilà. C'est comme si vous disiez, on enlève tous les câbles et tous les transistors dans un transistor, c'est une boîte.
C'est ça.
Donc, non, la synapse, d'abord, c'est la zone de contact. Donc, il y a toute une partie que je vous ai passée sous silence. Dans cette zone de contact, il y a un élément qui est un neurone qui communique avec un autre. Et les neurones qui communiquent entre eux forment des réseaux. Et les réseaux qui communiquent entre eux forment des méta-réseaux qui vont donner des régions du cerveau, etc. Tout ça implique des très grands nombres. Le nombre de synapses est à peu près équivalent au nombre d'objets célestes qu'on va avoir dans notre galaxie.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, c'est de l'ordre de 10 puissance 12.
10 puissance 12, bon.
Ça fait 10 suivant de 12 zéros. On n'est pas un zéro près, là. Hein, ouais. C'est entre 10 puissance 12 et 10 puissance 13. Voilà. Donc, c'est énorme. Et moi, je travaille sur comment fonctionne un seul de ces petits trucs.
Mais à travers l'observation de ces petits trucs, comme vous dites, vous avez mis en lumière certaines pathologies situées au niveau de la synapse qui sont liées à des maladies neurodégénératives comme Alzheimer.
Ma formation médicale a servi parce que un laboratoire pharmaceutique qui organisait un colloque m'a demandé d'organiser ce colloque sur le synapse et Alzheimer. Et donc, j'ai dit pourquoi pas. En écoutant une conférence, je me suis dit, ah ben oui, là, il y a un truc. Là, j'ai développé tout un nouvel axe de recherche, justement, sur des mécanismes très fondamentaux impliqués dans la maladie Alzheimer. Les maladies neurodégénératives ont une caractéristique qui est que ça commence d'une manière surreptice, vous avez des troubles de la mémoire, puis petit à petit, ça gagne du terrain à l'intérieur de votre cerveau en envahissant d'autres régions, comme s'il y avait une contamination de neurone à neurone. Mm-hmm. Et donc, qui dit contamination, dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se propager à l'intérieur de votre système nerveux. J'ai toujours pensé que vouloir soigner les maladies neurodégénératives, c'était illusoire. Mais
pourquoi?
Par contre, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est des maladies du vieillissement, c'est très compliqué. Enfin, c'est des maladies qui surviennent tardivement, c'est connu, c'est plutôt les personnes très âgées. Et en réalité, si on retarde de 5 ans l'entrée dans la dépendance, mm-hmm. on diminue par 2 le nombre de personnes qui doivent être hospitalisées. Parce que c'est une maladie du grand âge. Mm. Et donc, les gens finissent par mourir d'autre chose. Et donc, l'idée que moi j'avais, et que je défends toujours, c'est n'essayons pas de soigner, essayons de retarder l'entrée dans la dépendance. Parce que ce qui est important, c'est la dépendance. Donc oui, ma formation médicale, finalement, je reviens sur des termes médicaux, la dépendance, la probabilité de survie, voilà. Mais c'est pour vous montrer que des recherches très fondamentales qui partent d'une question un peu bêta, qu'on se posait sur pourquoi le poisson fuit son prédateur et pourquoi il ne réussit pas à tous les coups à fuir son prédateur, eh bien cette question, en creusant, en étant de plus en plus réductionniste, amène à se poser des questions qui sont des questions fondamentales de la biologie, qui touchent à des problèmes de thermodynamique statistique, de physique, etc. Et comment, en retour, cela peut conduire à réfléchir à « mais qu'est-ce qui dysfonctionne ?» Et dans ce qui dysfonctionne, que peut-on faire ? Voilà. Donc c'est juste ce petit zoom avant et zoom arrière que je voulais faire.
Je voulais parler de l'Institut de biologie que vous avez fondé en 2010.
Oui.
Vous fondez donc l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Racontez-nous un peu l'histoire de ce projet qui est, on peut dire, quand même une pierre angulaire de votre parcours, Antoine Triller.
Aller à l'École normale, c'était, au fond, C'était une forme de snobisme intellectuel en ce qui me concerne. Moi qui avais tout raté là, la scolarité, il fallait bien que je finisse quelque part.
Une revanche.
Voilà. Donc, j'allais à l'école normale, qui était un endroit merveilleux, où j'ai vécu quelque chose de totalement différent de ce que j'ai vécu à l'Institut Pasteur.
Différent en quoi ?
C'était vraiment la liberté. Une liberté intellectuelle que je n'avais pas à l'Institut Pasteur. Et donc, j'arrive à l'école normale avec la possibilité de monter une jeune équipe. Très rapidement, je transforme ma jeune équipe en unité de recherche de l'INSERM. Et moi, j'ai toujours trouvé que les unités, ça servait à rien.
Oui.
C'est des structures qui sont des structures qui ont eu leur intérêt, mais qui, en biologie, pour le type de biologie que je faisais, étaient inutiles. Le cœur du travail, c'est l'équipe de recherche. Je deviens directeur du département de biologie, assez rapidement. Et en étant directeur du département de biologie, je prends la décision de supprimer les unités et de transformer ces unités, toutes ces unités, en un seul institut qui devient une très grosse unité mixte INSERM, CNRS, ENS, mais où l'unité, en quelque sorte, n'a qu'une fonction administrative. Et je rends indépendant les équipes de recherche. Ça a été un combat pas très facile. D'abord parce que ça bouleversait les habitudes.
Est-ce que ce modèle d'organisation n'avait été vu nulle part ailleurs ?
À l'époque, ça n'existait pas. Quand je l'ai créé, ça n'existait pas. Après ça, il y en a eu beaucoup. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, il a fallu les convaincre. Et en fait, ça a été assez facile, d'un certain point de vue, parce que quand vous venez avec une solution, ça marche très bien. Et donc, ça a marché. Et donc, voilà, j'ai créé cet institut. Alors, cet institut est un institut qui est très... avec des axes très différents. Il y avait des gens qui faisaient de la biologie végétale, il y avait des gens qui faisaient de la levure, des neurobiologistes. Il y avait ces jeunes équipes. Et puis, j'ai fait venir progressivement des physiciens, des équipes de physiciens, des matheux.
Donc des profils très éclectiques.
Des profils très, très différents les uns des autres. Et tout ça a très bien marché.
Vous êtes toujours actif et présent
D'abord, je suis toujours actif parce que j'ai un gros contrat européen. J'ai une petite équipe qui reste active là-bas. Et la direction, maintenant, est assurée par Pierre Paoletti, d'ailleurs, qui est un autre académicien. Voilà, donc dans ce petit endroit, qui était un petit endroit pas riche, on n'est pas une fondation, on n'est pas l'Institut Pasteur, on n'est pas Imagine, on n'est pas l'ICM, on n'est pas tous ces grands instituts, on n'est pas Gustave Roussy, eh bien, on a quand même, bon an, mal an, pas mal d'académiciens, beaucoup de gros contrats, on n'a aucun argent caritatif qui arrive, on fonctionne avec les contrats qu'on obtient, et on a réussi à avoir très rapidement, assez rapidement, je dirais, un nom sur la carte internationale des instituts.
Alors, en plus de cet institut, de cette fonction là-bas, vous êtes aujourd'hui accaparé par d'autres missions. En premier lieu, celle de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. On en a un petit peu parlé au début de l'entretien. Vous avez été élu secrétaire perpétuel en 2022. Je crois que ça vous est un peu tombé dessus.
Oui, ça m'est tombé dessus, comme vous dites. D'ailleurs, tout dans ma vie m'est tombé dessus.
Ah oui ?
Tout m'est arrivé par hasard.
Et alors, secrétaire perpétuel,
j'étais élu pour être vice-président, pour devenir président de l'Académie des sciences. Puis un jour, ils ont eu besoin de Pascal Cossard, qui aurait pu prolonger, a décidé qu'elle ne prolongeait pas son mandat.
C'est un mandat de combien d'années ?
C'est un mandat de 6 ans, qui pourrait être éventuellement prolongé 2 ans.
D'accord.
Et donc, elle m'a demandé, est-ce que ça te dirait d'être secrétaire perpétuel ? Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas à quoi ça servait. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu secrétaire perpétuel. Voilà.
Vous avez dit oui ?
J'ai dit oui, parce que moi, j'attrape tout ce qui me passe devant le nez. Et j'ai dit oui, et voilà. Donc, c'est un énorme travail.
Vous travaillez donc aux côtés d'Étienne Gis. Oui. Comment s'organise la direction collégiale
On a un bureau qui se réunit une fois tous les 15 jours, qui comprend non seulement Étienne et moi, mais qui comprend également Françoise Combes, qui est la présidente, l'ancien président qui est président descendant, qui est Alain Fischer, plus quelques délégués des fonctions, soit pour les relations internationales, soit pour la communication, soit pour l'enseignement. Et donc, c'est une direction, je dirais, collégiale. Et donc, Étienne s'intéresse plus, je dirais, aux archives et aux publications. Et moi, je m'intéresse plus au comité et au groupe de travail. Mmh. Pour vous donner un exemple, j'ai mis en place plusieurs comités, où j'étais à l'origine de plusieurs comités. J'étais à l'origine du comité Femmes et Sciences, par exemple.
Et ces comités produisent des rapports,
c'est ça? On produit des rapports.
Qui sont ensuite diffusés au grand public.
Ils sont diffusés vers le politique d'abord, puis vers le grand public. On a fait des rapports sur des tas de thématiques, je dirais, sociales, où on flaire qu'il y a quelque chose, où la science a quelque chose à dire. Mmh. Et là, on fonctionne sur deux modes, soit sous mode de saisine, c'est-à-dire ou bien le président de la République ou bien un ministère nous demande de travailler sur un sujet particulier. Le temps d'un politique, si vous voulez, ce n'est pas le temps de la recherche. J'ai rencontré des gens vraiment intelligents et souvent impuissants. Et en réalité, très souvent, ne comprenant pas vraiment les attendus scientifiques. Donc vous voyez, c'est l'activité d'un secrétaire perpétuel, c'est lourd.
C'est bien dense. Vous avez été élu en 2022, mandat de 6 ans, vous m'avez dit, c'est ça?
Oui, donc ça se termine théoriquement en 2027.
Et alors, vous savez ce que vous allez faire après? Est-ce que vous continuerez
Je vais continuer à m'occuper de certains comités, bien entendu. J'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de pain sur la planche.
Alors, il m'arrive parfois de vous croiser dans les couloirs de l'Institut. Ce qui est assez frappant quand on vous croise, c'est que vous êtes toujours très bien habillé. Vous êtes un homme très élégant.
Merci.
Non, mais c'est vrai, vous portez de beaux foulards, des belles vestes. C'est assez recherché. D'où vous vient ce goût du beau, des belles choses?
C'est une question difficile. D'abord, je pense que quand on occupe une fonction, on doit faire honneur à cette fonction. Ça, c'est le premier point. Le deuxième... Quand on devient un vieux machin, on ne se laisse pas aller. Je trouve ça dommage que des gens qui ont des fonctions importantes, qui représentent en quelque sorte quelque chose aux yeux de la société, continuent à s'habiller comme s'ils avaient 35 ans et qu'ils étaient un jeune chercheur.
Mais vous, dans votre façon de vous habiller, ou même dans votre bureau, on a commenté quelques gravures que vous avez, ça va au-delà du devoir de représentation. On sent qu'il y a quand même un...
Je suis un peu collectionneur.
Une sorte d'esthète quand même.
Je suis un peu collectionneur. Je vais pas mal en salle des ventes. J'allais beaucoup en salle des ventes. Quand j'étais étudiant en médecine, j'ai fait la connaissance d'une dame assez âgée qui était la mère de quelqu'un qui était une des très grandes antiquaires d'art japonais à Paris. Et donc, j'étais devenu ami de cette personne. Je lui dois beaucoup dans ma formation du goût. Il y a cet aspect-là. Il y a d'autre part, dans ma famille, ma grand-mère était antiquaire. J'ai une grand-mère qui était antiquaire, qui avait beaucoup de goût en matière de meubles. Moi-même, ça m'a toujours intéressé. Je collectionne les livres anciens, les motions. Personnage un peu classique, quoi.
Et en même temps, vous faites aussi de la photo avec à l'iPhone.
Oui, bien sûr. Bon, il faut être dans son monde.
Ouais.
Mais on n'est pas obligé d'être dans son monde comme tout le monde.
Non. Alors du coup, je serais très curieuse de savoir à quoi ressemble votre épée d'académicien. Vous en avez une?
J'en ai une, mais elle ressemble à rien.
Elle ressemble à rien?
Non, les épées d'académicien, mon épée d'académicien est une épée que portaient les académiciens avant qu'on se mette à faire des épées d'académiciens.
C'est-à-dire des épées
très personnalisées. C'était des épées standards, qui étaient à peu près les mêmes que les épées des préfets. Je vous la montrerai d'ailleurs.
Ah ben oui, avec grand plaisir. Où est-ce qu'elle est cachée?
Et qui ne présente aucun intérêt. Voilà.
Ah d'accord, elle est derrière votre bureau. Alors...
Elle n'est pas à moi, je l'ai récupérée aux archives.
C'est vrai?
Pour la représentation, oui. C'est une épée qui est sans intérêt. C'est une épée...
Elle est très belle. Le manche est en nacre, non?
Le manche est en nacre. Et c'était... les préfets avaient ce type d'épée, qui est une épée de parade. Enfin, voilà.
Ouais.
Moi, j'ai toujours rêvé d'un duel sur le pont des Arts.
Vous ne pouvez pas demander un...
Moi qui ai fait de l'escrime quand j'étais petit.
C'est vrai?
Oui. Je pense qu'un vrai duel qui s'arrête au premier sang sur le pont des Arts, ça aurait quand même beaucoup d'allure.
Il n'y a pas un confrère académicien qui pourrait...
Que j'ai envie d'embrocher?
Ouais.
Il y en a plusieurs.
On ne dira pas de nom. Mais en tout cas, elle est très belle. Mais elle n'est pas signée. Vous n'avez pas...
Non.
Vous ne l'avez absolument pas personnalisée. Et vous la sortez à chaque...
Je la sors pour les cérémonies, ou quand je pense que je vais éventuellement me battre. Donc ça m'arrive assez rarement.
On a juste l'habitude de terminer l'entretien en demandant à l'invité, l'académicien, la chanson que vous avez en tête en ce moment. Une musique, ça peut être une chanson ou une musique. Et on met les quelques notes de cette chanson-là
alors, écoutez,
à la fin de l'enregistrement.
Il est 5h, Paris s'éveille.
De Jacques Dutronc.
Ouais.
Vous êtes matinal ?
J'étais très matinal, je reste matinal.
Merci beaucoup Antoine Triller.
Merci.
La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
En habit vert, rencontre avec un académicien. Les podcasts de l'Institut de France.